wrinkles on your face,
all over your face,
and the smile you used to wear seems a little bit.
You know, so after I was gonna take over right now, you'll see it.
Et bienvenue à votre émission La Voix des Immigrants sur Sécurité 90.3 FM à Montréal. Je suis Moukala et je suis votre animatrice comme à l'habitude. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons discuter du programme canadien pour le développement durable 2030 et discuter d'un sujet parallèle, la violence faite aux femmes. Comme nous avons un horaire très chargé, on va tout de suite enchaîner avec le sujet du jour. Donc, nous n'aurons pas de manchette aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite quitter là, pour une petite pause, une minute, et débuter l'émission. On se retrouve donc dans une minute. Me revoilà au micro. Donc, avant d'enchaîner avec ce qu'est le programme de développement durable, on va écouter ensemble un court vidéo de 3 minutes en anglais nous expliquant ses fondements. Et on se retrouve donc pour s'en parler live dans 3 minutes.
The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015. When 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change.
We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and a blueprint for success.
The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet.
Imagine there's no countries.
UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality.
Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals.
The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan created in the year 2000. The Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations.
Today, we are 100 and 93 young people representing billions more.
The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child.
Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals.
And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics.
Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia.
193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals.
It is so decided.
But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future.
Vous l'avez compris sûrement, donc l'idée du programme est en fait un monde où chacun trouve sa place et qui ne laisse personne de côté. Donc, en fait, présentement, je vous parle de ce qui est inscrit dans la stratégie nationale, la stratégie canadienne, en fait, là, du programme de développement durable. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'on souhaite un monde meilleur, en fait, hein, un monde plus juste, inclusif et résilient, et donc où personne n'est laissé de côté. Donc, c'est un peu dans ce cadre que les Nations Unies ont adopté en 2015 ce super programme de développement durable 2030. Ce cadre, en fait, il fait de référence mondiale, est axé sur un ensemble de 17 objectifs. Le développement durable est 169 cibles. Et puis, ce que les objectifs veulent, en fait, c'est ça, amener... nous amener vers un monde meilleur, en fait. Plus précisément, les objectifs couvrent les dimensions sociales et économiques, en fait, couvrent des dimensions sociales, économiques et environnementales et intègrent également des éléments ayant trait à la paix, à la gouvernance, à la justice. Le programme est d'une nature universelle. Il exhorte tous les pays en développement et développés à mettre en place des objectifs de développement durable afin d'éradiquer la pauvreté et faire en sorte que personne ne soit donc laissé de côté. Les 17 objectifs du programme sont l'élimination de la pauvreté, l'élimination de la faim dans le monde, une bonne santé, un bien-être pour tous, une éducation de qualité pour tous, l'égalité entre les sexes, une eau propre et un assainissement également des eaux, l'énergie propre et d'un coût abordable, un travail décent, en fait, le travail décent et la croissance économique, une industrie, donc des infrastructures solides, des inégalités réduites, le développement de tout ce qui est ville et communauté de façon durable, une consommation et production responsable, des mesures contre les changements climatiques, la protection des océans, la vie, protection de la vie terrestre également, la paix et la justice et des institutions efficaces et des partenariats pour permettre la réalisation de tous ces objectifs. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il faudra les mettre en œuvre de manière intégrée en reconnaissant que les dimensions économiques, sociales et environnementales se renforcent mutuellement et qu'un échec dans un domaine peut entraîner un échec dans d'autres. Le programme pour le développement durable à l'horizon 2030 est une voie à suivre pour le Canada et pour le monde. C'est un plan directeur global pour bâtir un monde plus pacifique, inclusif, on répète, prospère, résilient et durable. C'est un programme qui est axé sur les personnes. C'est une façon d'améliorer la qualité de vie, de répondre aux besoins et aux priorités des gens, notamment donc par un logement sûr, une sécurité alimentaire, travail décent toujours, l'accès à des soins et services de santé, à une éducation de qualité. Bref, on répète un peu les objectifs, mais on comprend que ce qu'on veut, c'est un monde meilleur pour tous, une vie décente pour tous. Le Canada participe au programme, donc il a adopté justement donc, sa fameuse stratégie nationale du Canada pour le programme 2030. Le Canada souhaite bâtir un environnement responsabilisant, inclusif, qui soutient l'atteinte des objectifs de développement durable, tirer parti de nos différentes forces et expériences pour l'ensemble du Canada, dans les collectivités arctiques, rurales et côtières, comme dans les grands centres, faire en sorte que les Canadiens fournissent leur part d'efforts en tant que citoyens du monde. Le Canada souhaite également reconnaître les engagements importants à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones et l'autodétermination de ces peuples, et reconnaître également les engagements à l'égard de l'égalité, de l'environnement sain, de la paix, de la justice, bon, des droits de la personne. Selon la stratégie du Canada donc en matière de développement durable 2030, il y a donc des raisons impératives de relever le défi des objectifs. Tout le monde peut contribuer à participer au programme. Tout le monde donc va en bénéficier nécessairement. Puis quand on parle de tout le monde, enfin, on parle de l'ensemble des citoyens, mais également donc, des gouvernements. On fait référence aux peuples autochtones, aux secteurs privés, aux organismes communautaires et également aux communautés universitaires. Concernant les gouvernements, donc on fait référence aux gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux et des régions autochtones également, ou des régions autochtones, je pense que ça se dit. Donc, ce que l'on dit, c'est que tous ces gouvernements ont un rôle à jouer pour promouvoir le programme 2030. Ils ont des impacts clairs et directs sur les Canadiens en s'occupant de priorités comme l'amélioration des résultats sur la santé, la réduction de la pauvreté, l'élimination de l'insécurité alimentaire, un meilleur accès à l'éducation, les efforts pour améliorer tous les autres aspects visant à assurer un environnement durable et sain. Au niveau des peuples autochtones, ils seraient donc en train de définir, de façonner, d'atteindre des résultats. Donc, en fait, ils déterminent eux-mêmes là, des voies à suivre en matière de développement durable pour leurs terres, territoires. Puis, donc, cela donc, s'inscrit dans un engagement vers l'autodétermination, en fait, leur autodétermination. Détermination, j'ai de la misère, pardon, excellent. Et reconnaît donc leurs particularités, en fait, là, comme la particularité de leur peuple, ou les particularités de leur peuple. Au niveau des groupes communautaires, donc, ce que l'on dit, c'est qu'ils sont au cœur de l'essentiel du travail. Beaucoup s'investissent dans le travail, dans du travail local, national et international, qui contribue à promouvoir le programme 2030, notamment en améliorant la santé environnementale, réduisant la marginalisation pour parvenir à une plus grande équité et en s'alliant des partenaires en faveur de la paix et de la justice. Donc, les personnes actives dans la société civile canadienne travaillent fort au pays à l'étranger pour atteindre les objectifs. Elles peuvent bénéficier d'un accès à plus de données, de connaissances, de réseaux d'expertise pour mobiliser davantage les collectivités. Et donc, ces groupes communautaires sont des gens qui ont beaucoup d'expertise, en fait, et qui peuvent aider, donc, nous aider, nous, hein, parce que c'est plus facile pour l'ensemble des citoyens de faire le lien, en fait, de s'associer avec les organismes communautaires versus avec les gouvernements. Hein. Donc, on peut via une alliance, en fait, juste en discutant avec les organismes, j'imagine de participer à ce programme de développement durable 2030. Le secteur privé également, ce que l'on dit, c'est qu'il peut participer. Donc, le programme requiert des employeurs qui peuvent contribuer à une croissance durable, à des emplois de qualité. En fait, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que le secteur privé peut jouer un rôle encore plus important pour mener à bien le programme, en créant des emplois décents, donc des emplois qui atténuent la pauvreté, en faisant la promotion de l'innovation et de solutions axées sur le développement durable, et en contribuant à des habitudes de production et de consommation durable ou participant à des mécanismes de financement. C'est important, le financement, les grandes entreprises qui ont beaucoup de sous peuvent contribuer pour permettre de mettre en place là, des actions pour favoriser donc voilà, c'est ça, l'atteinte des objectifs au Canada et au Québec également. Donc, en participant à des mécanismes de financement et d'impact social et innovateur pour atteindre les objectifs. Donc, ici, on avait donc le gros programme. Vous pouvez consulter le site Internet des Nations Unies. Vous avez faites une recherche rapide, Nations Unies, Objectif développement durable 2030. Donc, vous êtes tombé sur une super page qui vous explique là, vraiment les 17 objectifs. Puis, bon, et donc, de façon plus approfondie, le programme de développement durable 2030. Et on est en 2021, il nous reste 9 ans pour atteindre les objectifs. Donc, il faut faire vite, il faut aller consulter, puis voilà, se renseigner. Ce que je voulais qu'on fasse maintenant, c'est écouter donc une vidéo de 35 minutes, en fait 35 minutes d'une vidéo qui parle donc de la stratégie pour atteindre les objectifs de développement durable en matière de protection sociale. Donc, c'est sûr que là, on parle spécifiquement de la protection sociale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle dans la vidéo de, en fait, de partenariat puis de coopération. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment par le partenariat et la coopération qu'on sera en mesure donc, d'atteindre ces 17 objectifs. Et donc, ce partenariat, bon, je répète un peu vous pour l'ensemble des objectifs. Puis voilà, donc c'est bien intéressant. On parle de protection sociale. On n'a pas tous accès à tout ce qui concerne, je dirais, la protection contre le chômage, les pertes d'emploi. Je veux dire, il y a eu la COVID dernièrement, donc je pense que c'est quand même, la protection sociale est quand même importante, mais c'est ça. C'est comment faire pour s'assurer qu'un ensemble des travailleurs, puis au fond, c'est ce que ça devrait être, l'ensemble des travailleurs, en fait, peu importe le pays, devrait avoir accès à une protection sociale, mais comment faire pour y parvenir. Donc, voilà. Donc, l'essentiel du vidéo, la stratégie de la coopération pour nous permettre d'atteindre nos fameux objectifs, cet objectif de développement durable.
Si l'on pense à la première affectation du fonds ODD commun lancé par les Nations Unies en mars 2019, qui a 72 millions de dollars dans ses caisses destinées à la protection sociale. Donc nous savons qu'au-delà du travail avec le système des Nations Unies, l'OIT doit travailler avec des partenaires stratégiques sous forme d'organisation régionale et internationale. Et dans cette conversation, nous allons avoir leur perspective sur ce qui a changé dans le domaine de la coopération au niveau national et international depuis 10 ans. Nous allons avoir une conversation très franche sur les goulets d'étranglement, mais aussi nous allons énumérer les facteurs de succès. Et mon thème favorable, c'est une réflexion sur ce que chacune de ces institutions présentes aujourd'hui peut apporter. Mais pour commencer, je vais demander à M. Christophe Perrin de nous présenter rapidement la façon dont l'OIT conduit, coordonne et promeut la participation, sa participation active dans le système des Nations Unies, mais aussi avec d'autres organisations multilatérales, notamment dans le domaine de la protection sociale.
Thank you for giving the floor and welcome to.
Merci et bienvenue à vous tous. Cet après-midi, on m'a demandé de planter le décor de cette table ronde. Je ne veux pas trop parler de nous, mais j'aimerais plutôt donner un panorama général. Beaucoup a été dit déjà ce matin, cet après-midi. Évidemment, il y a toujours le risque de nous répéter. Mais comme point de départ, je vais prendre ce qu'a dit la vice-secrétaire générale dans son message vidéo, où elle a dit que la tâche était énorme et que personne ne pourrait faire cela seul. Donc, il faut des partenariats solides, une vision commune, une action collective. Ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est que la protection sociale n'est pas la prérogative de quiconque. Au niveau national, nous savons qu'il faut que tout le gouvernement s'engage, le ministère du Travail, de la Planification, des Finances, de la Santé, et j'en passe. Il faut aussi que participent d'autres partenaires. Évidemment, nous sommes à l'OIT, donc les travailleurs, les employeurs sont en première ligne, pas simplement parce qu'ils font partie de la gouvernance de l'organisation, mais parce qu'ils jouent un rôle vital dans le contexte général de la protection sociale, aussi bien en tant que clients, pour ainsi dire, mais aussi parce qu'ils financent le système de protection sociale. Et nous avons aussi besoin de la société civile dans son ensemble. Concernant le front multilatéral, vous l'avez déjà vu, il y a beaucoup d'acteurs qui sont actifs dans ce domaine. Je ne vais pas trop parler de l'OIT, mais cela fait partie de notre mandat constitutionnel depuis 100 ans. Mais beaucoup des institutions spécialisées des Nations Unies joue un rôle dans le domaine de la protection sociale, l'OMS, UNICEF, FAO, le FNUAP, ONU Femmes, le PNUD, le HCR, la Banque mondiale. Il y a d'autres acteurs encore, justement la Banque mondiale et bien sûr la Commission européenne. Mais enfin, ce n'est pas des moindres. Vous savez peut-être que le FMI a récemment lancé un nouveau cadre stratégique sur les dépenses sociales. Et la directrice Lagarde est venue pendant la conférence de l'OIT en juin et a lancé ce cadre. Donc il se passe beaucoup de choses. Nous devons coordonner nos efforts au niveau national et international. Il y a beaucoup de grandes initiatives, ça a été déjà évoqué ce matin, l'initiative sur les socles de protection sociale qui a été lancée juste après la crise de 2008 et dont je dois dire que c'est une des vraies réussites d'une seule organisation des Nations Unies. Et dans ce contexte de l'action commune et unique de toutes la famille des Nations Unies, il y a l'action commune et financement commun de toute une série d'activités. Mais on va en parler davantage, on va notamment parler du fonds commun des ODD. Comme vous le savez, le premier facteur, le premier élément de ce fonds, c'était la protection sociale. Je ne vais pas mentionner tous les partenariats. Il y a aussi des partenariats avec des partenaires sociaux, la société civile. Donc beaucoup de choses se font, mais il faut en faire plus si nous voulons assurer une couverture complète d'ici à 2030. Et il faut donc renforcer ces initiatives, mais s'assurer également que la cohérence des politiques au niveau mondial se traduit en une véritable coopération au niveau des pays. J'en resterai là. Merci. Donc les trois C, coordination, cohérence et égale collaboration. Merci beaucoup. Vous avez souligné les actions communes, le financement commun. Et peut-être que nous allons commencer pour notre conversation. Et d'abord, je vais donner la parole à Madame Jäger. Nous savons que la Commission européenne, la DG DEFCO, a lancé une initiative sur la protection sociale. Pourriez-vous nous parler de cela et nous dire comment les acteurs collaborent ? Merci d'avoir invité la Commission européenne. Vous savez tous que la protection sociale et l'égalité de tous restent une priorité pour la Commission européenne. Et c'est pourquoi je suis très fier aujourd'hui d'annoncer que nous venons de lancer ce programme phare de 20 millions d'euros qui lie la protection sociale avec la gestion des finances publiques. Nous pensons que c'est novateur et nous avons commencé en octobre. Il s'agit vraiment de trouver des synergies et une cohésion entre la protection sociale et la gestion des finances publiques. Et donc, ce que nous voulons, c'est avoir une durabilité financière. Nous avons trois objectifs. D'abord, concevoir et financer les systèmes sociaux pour les mettre en œuvre et les suivre. Et c'est aussi la question de la sensibilité au choc des systèmes de protection sociale. Nous voulons que ces systèmes évoluent en fonction du genre et puissent réagir en cas de choc qui peuvent se produire chaque jour, comme nous le savons. Donc nous sommes très fiers de faire ça en partenariat avec l'OIT, l'UNICEF et la coalition de plus de 100 ONG et syndicats. Et nous pensons que cette méthode inclusive, ce partenariat que nous avons pour la mise en œuvre et pour la coopération, vont donner des résultats qui seront vraiment de bonnes pratiques pour l'avenir.
It's very important as well.
Ainsi, il est très important d'arriver à la protection sociale via ce lien entre assistance et développement. Nous avons des pays prioritaires au nombre de 8 et dans 7 de ces pays, nous avons un appui budgétaire qui est offert puisque nous avons les programmes bilatéraux dans 26 pays. Et c'est 1 milliard pour ce qui est du portefeuille. Mais nous voulons lier cette expérience avec ce programme que nous avons lancé avec l'OIT. Nous avons de grandes attentes et nous attendons beaucoup de ce partenariat avec l'OIT, l'UNICEF et d'autres pour obtenir des résultats et pour déployer ce programme. Félicitations. Félicitations parce que c'est un jalon important. Vous l'avez dit, ça pourrait faire histoire à arriver dans les annales et ça pourrait servir d'exemple à d'autres. J'en reviens à cette notion de prisme. Vous avez parlé de lien entre l'assistance humanitaire et le développement. Donc là, c'est important. C'est un élément qu'il convient de souligner. Merci d'avoir insisté là-dessus. Madame Corbelel, nous voyons bien l'élan qui intervient. Monsieur Perrin l'a dit, nous avons un appel à proposition qui est axé maintenant sur la protection sociale. Mais étant donné que pour ce fonds, on met l'accent sur le financement stratégique, qu'est-ce qui influence la décision pour braquer les projecteurs sur la protection sociale et pour ne laisser personne de côté? Merci de votre question. Ne laisser personne de côté, ça c'est très important pour le programme 2030 et les ODD. Lorsque M. Gutiérrez a créé ce fonds, il voulait qu'on accélère dans chaque pays. On voulait être plus percutant et offrir ce qu'il y a de mieux au niveau des équipes de pays. On l'a dit à plusieurs reprises, le temps compte. On n'est pas là pour être en concurrence les uns avec les autres. Que ce soit au niveau du financement, l'important c'est que l'expertise soit bien exploitée. On a un fonds vertical et ensuite il faut 3 ou 4 institutions pour chaque équipe de pays et ensuite le partenariat avec le gouvernement. Ça, c'est l'essentiel. Autre point important, et la vice-secrétaire générale l'a dit ce matin, Madame Mohamed, il y a l'effet démultiplicateur pour chaque yen, euro, dollar investi dans la protection sociale. Ça a des répercussions sur les autres ODD et ça a même un effet d'accélérateur. Ce fonds n'est créé que pour les 9 années à venir, 9 années et demie, mais nous voulons que l'on change la manière de travailler. Mais on veut simplement que l'on avance. Merci, formidable. Eh bien, nous sommes là pour être plus percutants, pour que chaque entité offre ce qu'elle a de mieux à offrir. C'est très important ce que vous dites sur cet effet démultiplicateur et sur ce retour sur investissement. Alors, Madame Moirou, nous venons de parler de ce fonds pour les ODD, mais les coordonnateurs résidents ont été invités à soumettre des notes conceptuelles pour se concentrer sur cet effet démultiplicateur. Le Liban a été choisi parce que il est le bon candidat. Mais quelle est la pertinence de la protection sociale dans ce contexte de transformation économique et sociale en cours au Liban? Premièrement. Deuxièmement, quel rôle voyez-vous pour une équipe des Nations Unies lorsqu'il s'agit d'appuyer la protection sociale au Liban, étant donné ce qui a été approuvé récemment avec ce fonds conjoint? Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au nom du coordonnateur résident qui ne pouvait malheureusement être présent, donc je le représente, ainsi que les institutions des Nations Unies qui font partie du programme pour planter le décor au Liban, vous avez un paysage plutôt varié, plusieurs régimes de protection sociale, deux piliers, l'un pour cibler la pauvreté, pour ceux qui sont en deçà de la, du seuil de pauvreté extrême. Malheureusement, c'est un secteur qui n'est pas forcément bien financé. Il y a quand même certaines limitations au système actuel. En termes de couverture du système contributif de protection sociale, mais aussi en termes de ciblage, puisqu'on ne cible que 18% des Libanais pauvres. Et là, ça fait partie des discussions avec le gouvernement, avec le ministère des Affaires sociales. On n'a pas de système de protection sociale. Ou alors, il faut combiner avec un système d'assistance sociale. On n'arrive pas à avoir cet effet d'accélération pour les ODD, d'où cette initiative. Je pense que c'était pertinent au moment de la conception du programme, et vous avez suivi les nouvelles. Le Liban fait face à une crise de plus. Il y aura une crise économique, budgétaire qui va avoir un impact sur le bien-être des plus vulnérables et des plus pauvres. La Banque mondiale, il y a 2 semaines, a publié une déclaration pour dire que on pourrait arriver à un taux de 50% de pauvreté si la situation empire. Il y a aussi les manifestations dans la rue. Les gens veulent davantage d'égalité, de justice sociale. Ils veulent ce droit à la protection sociale. Donc là aussi, ça s'accélère et ça pourrait peut-être permettre de renouveler le contrat social. Nous attendons beaucoup de ce programme avec 5 agences des Nations Unies, ce partenariat OIT, UNICEF, PNUD, ONU Femmes. Nous espérons que l'on pourra avoir un effet d'accélération. Mais on n'est pas parti de nulle part. On est parti de ce que l'on faisait auparavant, parce que le Liban, c'est un grand programme d'assistance pour les Syriens, les Libanais. Au fil du temps, nous essayons de voir comment travailler ensemble. Nous avons un pacte avec la Banque mondiale, mais pas seulement. Nous opérationnalisons les partenariats pour la protection sociale. Nous avons un groupe de travail informel sur l'assistance sociale, la protection sociale. Enfin bref, nous travaillons pour arriver à une analyse conjointe des priorités. Ça, c'est très important si nous voulons avoir des résultats et dégager des économies d'échelle, notamment. Pourquoi est-ce que ces 5 agences des Nations Unies se sont regroupées? Parce que nous sommes complémentaires. Nous travaillons avec tel ou tel ministère ou avec le bureau du Premier ministre. Au Liban, c'est très important. Si nous voulons réunir toute l'approche gouvernementale, et puis, nous voulons insister sur les femmes, les personnes handicapées, le secteur informel. Nous travaillons avec ONU Femmes, avec l'OIT et l'UNICEF. C'est très important lorsqu'on vise l'inclusion. Merci. C'est très important ce que vous nous dites, ce qui nous ramène à la protection sociale, qui est un investissement dans la paix et la stabilité. Vous l'avez dit, il faudrait revoir ce contrat social au Liban. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Et notamment, qu'en l'absence d'une vision commune, on ne peut pas marcher dans la même direction. Si on a la même vision des choses, on a les mêmes priorités. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez vous demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas de représentant gouvernemental. Nous avons invité, nous avions invité le Burkina Faso malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas de notre ressort, Son Excellence l'ambassadeur n'a pas pu nous rejoindre. Mais une autre voix que je voudrais entendre, c'est la vôtre. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions et je transmettrai. Mes collègues sont là, près de la porte, pour recevoir votre contribution. Monsieur Dimitrov, si vous voulez bien nous donner votre avis. Nous avons la réforme des Nations Unies, mais comment s'assurer que les organisations de travailleurs soient reconnues comme un partenaire essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de protection sociale? Bonjour à tous. Je suis porte-parole des travailleurs au conseil d'administration de l'OIT. Donc là, je ne prends pas la parole à titre personnel ou à titre national, je tiens à le dire. La réforme des Nations Unies rassemble toutes les institutions onusiennes au niveau national. Mais le système de l'OIT est unique en son genre, puisque l'OIT est tripartite. Et c'est peut-être ce qui est remis en cause. Alors, nous avons les avis de chacun. Il y a aussi les institutions de Bretton Woods. Le dialogue tripartite, le dialogue social devrait devenir quadripartite ou pentagonal. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui acquiescent lorsque je dis cela. Et là, c'est ce qui pose question parce que nous sommes ici dans cette maison ancienne qui a... ériger le dialogue social en institution, le dialogue tripartite, dialogue entre employeurs et travailleurs. Évidemment, le monde du travail pose des défis, mais il n'y a pas que cela. La protection adéquate devrait être étendue à tous les travailleurs. La relation d'emploi doit être protégée, mais la réforme des Nations Unies doit être surveillée de près. Et là, je parle pour les travailleurs. La protection sociale ne peut pas être remplacée par un filet de sécurité ou par une garantie minimale, comme on nous le propose. Comment est-ce que les institutions de Bretton Woods coopèrent avec l'OIT ? Le directeur général est très poli lorsqu'il parle de cette question. Mais moi, je ne serai pas poli. Je dirais qu'il y a de grandes divergences. Nous avons besoin de socles de protection sociale. Il faut que ce soit complété par des régimes d'assurance sociale. Et il faut aussi des socles de protection du travail. Donc, des salaires minimums, un filet de sécurité, la santé et la sécurité, enfin les droits et... principes fondamentaux au travail si nous voulons la protection sociale à l'heure actuelle et à l'avenir. Ça, c'est très important. C'est même peut-être le plus important pour le contrat social. Mais si nous voulons le nouveau contrat social à l'échelle mondiale, c'est ce que nous voulons. La Commission mondiale a publié son rapport sur l'avenir du monde du travail. Nous avons aussi deux points, responsabilité et financement. Côté employeur, ce matin, on parlait de responsabilité, de protection sociale, évasion fiscale, non-acquittement des cotisations, corruption. Il faudrait que ce soit traité beaucoup plus efficacement. Et il faudrait que ce soit réglé. Il ne faut pas que l'injustice se répande partout dans le monde. Le directeur général l'a dit ce matin, la sécurité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous l'avez dit vous-même, nous avons 55% de la main-d'œuvre qui se retrouvent sans protection sociale. Alors, il ne faut pas que cette peur se transforme en colère. Merci, Monsieur Dimitrov. Le directeur général a dit que la conversation sera peut-être difficile et peut-être que ça ira un petit peu dans plusieurs sens. Mais c'est justement parce qu'il y a plusieurs perspectives, plusieurs visions. Et j'apprécie la franchise avec laquelle vous nous parlez. Y a-t-il d'autres questions qu'il faudrait poser qui n'ont pas encore été posées? Monsieur Rutkowski, je sais que je ne vous ai pas encore donné la parole, mais quelques secondes avant, je me tourne vers Monsieur Perrin. L'OIT a coprésidé l'initiative ONU-SPF et a contribué à de nombreuses propositions au titre de ce fonds conjoint. Mais quelle est la perspective de l'OIT vis-à-vis de cette collaboration sur la protection sociale? Oui, si vous voulez bien. Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Je serai concis. Alors, trois dimensions en ce qui nous concerne. Les institutions onusiennes promeuvent une approche centrée sur les droits. L'OIT a son mandat normatif, ses activités normatives et d'une certaine manière, cette activité normative doit être prise en compte. C'est une dimension importante. Il y a le dispositif de surveillance, il y a des instruments phares liés à la sécurité sociale, à la protection sociale. Il y a aussi les instruments sectoriels. Et ça, c'est la valeur ajoutée du système. Deuxième dimension, en vertu de notre mandat constitutionnel, il faut se soucier de toutes les prestations, retraite, assurance, chômage, soins de santé, entre autres, alors que les autres institutions onusiennes, en fonction de leur mandat respectif, se concentrent soit sur la population ciblée, les enfants, les femmes, les réfugiés, soit sur certains domaines d'activité. Alors que là, nous avons cette approche systémique que nous apportons au système onusien. Et pour revenir à ce qui a été dit, la participation. Nous savons que c'est fondamental. Il faut que les bénéficiaires participent. Nous le faisons toujours par le biais d'organisations de la société civile. C'est vrai que la représentation, c'est essentiel. Ça a été dit par Plamen, mais là, c'est une autre dimension, dialogue social et tous les acteurs de l'économie, d'ailleurs. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, nous avons le dialogue social. La dimension dialogue social, je sais que parfois ça peut paraître un petit peu étrange, c'est un petit peu difficile à faire comprendre, mais on avance. Ce sont les trois dimensions que je voulais évoquer, la réforme des Nations Unies évoquée par Plamen. Bien sûr, nous comprenons les préoccupations des partenaires sociaux, le risque d'une certaine dilution. Et que va-t-il advenir du mécanisme de contrôle? Nous avons eu pas mal de discussions là-dessus au conseil d'administration. Au bureau, nous voyons cela comme une chance. C'est la chance de nous faire connaître des autres, de faire connaître les normes du travail. Travail décent, bien sûr, nous ne sous-estimons pas ces inquiétudes de nos mandants, évidemment. Merci. C'est l'occasion de se faire entendre d'autres personnes. Vous l'avez dit, il faut une approche systémique plus globale. Pour les partenariats, et là, je reviens vers Madame Jäger. Si vous y réfléchissez, l'Union européenne est le deuxième plus grand contributeur au fonds conjoint. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi l'Union européenne a pris cette décision ? Et c'est peut-être plus important encore, quel est l'avantage comparatif d'un fonds à plusieurs parties prenantes ? Merci. L'Union européenne croit dans le multilatéralisme. Et c'est pourquoi nous avons contribué à hauteur de 30 millions d'euros au fonds pour le programme 2030. Nous sommes fiers de cette contribution parce que nous pensons que c'est la meilleure manière d'agir. Ainsi, nous pouvons atteindre les ODD et nous pouvons avoir une meilleure coordination et un meilleur impact au niveau des pays. Parce que pourquoi est-ce que nous faisons tout cela ? Nous le faisons pour les personnes, pour les gens. Et ça, c'est la valeur ajoutée, ce qui se passe au niveau des pays. Voilà qui témoigne de notre attachement au multilatéralisme. Et c'est l'ONU qui joue le rôle essentiel pour la mise en œuvre de ce programme 2030. C'est au cœur de notre lutte pour le multilatéralisme. Nous espérons que la réforme des Nations Unies, que le rôle des coordonnateurs résidents permettra d'avoir une meilleure synergie, une meilleure cohérence au sein du système. Nous espérons que la coordination va s'améliorer, notamment au niveau des pays, et ce, pour le bien des pays. Les équipes de pays devraient travailler ensemble avec les délégations, ce qui permettrait de renforcer la coopération au niveau des pays, au niveau du continent, au niveau du monde entier pour atteindre ces ODD. Bien, c'est parce que vous avez foi dans le multilatéralisme. Monsieur Rutkowski, partenariat. Septembre 2016, le partenariat mondial pour la protection sociale universelle visant à atteindre les ODD a été lancé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le partenariat est co-présidé par l'OIT et la Banque mondiale et réunit 31 partenaires, je crois, à l'heure actuelle, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pourquoi est-ce que l'on avait besoin de ce type de partenariat ? Et ensuite, qu'est-ce que cela ajoute quand on fait la comparaison avec les partenariats ou alliances qui existent déjà ? C'est un partenariat très important. Lorsque ça a été signé à New York, c'était une grande journée pour moi. Parce que ça donne un cadre et ça donne une certaine motivation. Il faut que ce soit universel. Maintenant que nous avons ce cadre, nous savons pourquoi nous travaillons ensemble. Avant la déclaration sur la protection sociale universelle, nous travaillions déjà ensemble dans divers domaines, coordination interinstitution, pour élaborer des outils de mesure de la protection sociale. Alors, avec cette vision commune, on peut travailler de manière très concrète. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je suis ravie de cette réunion. Cette réunion n'aurait même pas été possible il y a 5 ans. Nous sommes réunis, nous sommes ensemble parce que nous travaillons ensemble et parce que nous savons pourquoi nous ne sommes pas toujours d'accord sur telle ou telle politique. Nous avons un livre blanc sur la protection, protéger tout le monde. D'accord, nous voulons protéger tout le monde. Mais sur la question de savoir comment, alors, C'est là qu'il y a plusieurs différences, plusieurs politiques.
Donc, nous avons compris que le tout, donc la stratégie pour atteindre ces fameux objectifs de développement durable, c'est vraiment la coopération et le partenariat. Sur le site Internet des Nations Unies, donc vous pouvez faire une recherche et puis bon, inscrire objectifs de développement durable Nations Unies, puis vous allez tomber donc sur la page d'accueil là, spécifiquement pour le programme de développement durable 2030. Vous allez retrouver un onglet s'intitulant campagne, et à travers cet onglet, vous allez constater que trois campagnes sont actuellement menées. Donc, une contre les changements climatiques, une autre contre la fin de la violence à l'égard des femmes et des filles, et une troisième campagne, pardon, pour sauver les océans. Concernant la campagne visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, il y a le programme Initiative Spotlight, qui est en fait une initiative mondiale nommée de cette façon, car elle veut attirer l'attention donc, tout individu possible sur ce problème donc, de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Actuellement, donc, il y a un partenariat en fait, entre l'Union européenne et les Nations unies pour justement vérifier, déterminer comment on peut, de façon définitive, mettre fin à toutes ces formes de violence. Donc, vous avez donc l'initiative Spotlight. On a un site Internet, un site web spécifiquement là, pour cette initiative. Donc, www.spotlightinitiative.org. Et donc, via ce site Internet, vous allez trouver l'information sur cette initiative. Voilà, qui est donc, je répète, un partenariat entre l'Union européenne et les Nations unies. Concernant la violence faite aux femmes, j'ai quelques statistiques pour vous. Donc, aujourd'hui, cette violence constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Une femme sur trois dans le monde a subi des violences sexuelles et physiques. Et les femmes et les filles sont soumises à une violence disproportionnée, notamment à des féminicides, à des violences sexuelles, à la violence conjugale, à la traite et à des pratiques préjudiciables. Donc, pour parler d'une façon plus spécifique, puis moi, il nous reste peu de temps, donc ça va être très bref, mais bon, on parle, vous pourriez me consulter donc le site de spotlightinitiative.org, le site des Nations Unies, a même appelé, je ne sais pas quel ministère ici au Québec, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, vous le savez autant que moi, de féminicide, donc comment faire pour enrayer ce problème. Donc, vous pouvez vous renseigner via tous ces sites Internet et via en contactant les autorités gouvernementales québécoises. Des autorités gouvernementales québécoises. Donc, j'ai deux vidéos pour vous, donc, traitant donc, de cette violence à l'égard des femmes et des filles. Un premier des Nations Unies, puis un deuxième que je trouvais très intéressant, donc de l'Organisation mondiale de la santé, et qui nous dit que l'on peut impliquer donc, tous les services de santé pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, elles peuvent réellement contribuer. C'est intéressant de comprendre, on va comprendre comment. Donc, voilà, je trouve ça intéressant. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Souvent, on parle des essentiellement des maisons là, pour femmes victimes de violences conjugales, mais au fond, il y a probablement différents. Il y a plus que ces fameuses maisons pour violences conjugales qui peuvent contribuer, en fait, qui peuvent aider à recevoir une femme victime de violences conjugales, une fille victime de violences pour, voilà, et éventuellement contribuer à l'élimination de ce problème. Donc, on écoute le premier vidéo, mettre fin aux violences contre les femmes et les filles, et par la suite, on écoute un second vidéo, violences contre les femmes, renforcer la réponse du système de santé. Et on se retrouve donc dans quelques minutes.
Dans le monde, une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Moins de 40% d'entre elles cherchent de l'aide et seulement 10% d'entre elles portent plainte ou cherchent un soutien auprès de la police. Et parmi les femmes victimes d'homicides dans le monde en 2012, 50% ont été assassinées par leur partenaire ou par un membre de leur famille. Cette situation ne peut pas être ignorée. Même si de nombreux progrès ont été réalisés, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est loin d'être une réalité. L'ONU Femmes s'engage pour la cause des femmes et travaille avec les gouvernements, les acteurs nationaux, les associations et organisations de femmes et la société civile en vue de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. La communauté internationale a récemment convenu que l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est une cible importante pour un avenir durable et un élément clé pour la réalisation des objectifs de développement durable. Dans le cadre de cet effort, nous devons nous assurer que nos interventions touchent toutes les femmes, jusqu'à la dernière. De par sa présence dans 85 pays, dans toutes les régions du monde, l'ONU Femmes contribue activement à réaliser cet objectif. Nous soutenons les États à prendre des mesures variées. L'adoption, la mise en œuvre et l'évaluation de lois et de politiques globales. S'attaquer aux causes profondes de la violence à travers des stratégies de prévention et en encourageant les communautés à transformer les normes sociales. La garantie de l'accès à des services essentiels et structures de soutien pour toutes les survivantes de violences. Et la collecte et l'analyse de données afin de mieux comprendre la nature et l'étendue réelle du problème. À l'ONU Femmes, nous voulons croire en un monde où les femmes et les jeunes filles vivent comme des membres de la société à part entière, libres de toute forme de discrimination et de violence. Mais n'attendons pas 2030, agissons dès maintenant. Aidez-nous à faire en sorte que nos programmes touchent toutes les femmes, jusqu'à la dernière. Ensemble, nous pouvons y arriver. Si nous ne le faisons pas maintenant, alors quand ? Si nous ne le faisons pas, alors qui le fera ?
Une femme sur trois subit la violence de son époux ou de son partenaire. Cela représente plus de 800 millions de femmes à travers le monde. Ces femmes peuvent se sentir piégées, effrayées. Leurs vies sont souvent restreintes. Celles qui envisagent de partir redoutent de se retrouver sans ressources ou de perdre leurs enfants. Avec le temps, leur confiance s'estompe. La vie sans violence leur semble un lointain souvenir. La maltraitance peut entraîner des blessures corporelles ainsi que des problèmes graves de santé physique et mentale. Et dans certains cas, même la mort. De nombreuses femmes contractent des infections sexuellement transmissibles ou ont des grossesses non désirées. Enceintes, elles risquent davantage une fausse couche, de donner naissance à un bébé prématuré ou de faible poids. Elles peuvent souffrir de dépression, d'angoisse, d'autres problèmes de santé mentale ou développer une dépendance à l'alcool et aux drogues. Il peut s'avérer difficile de savoir à qui faire confiance, à qui s'adresser. Mais il existe un endroit où elles peuvent aller. Une visite dans une clinique locale est souvent une des rares opportunités de sortir seule. Et il est important pour les médecins et infirmières de s'assurer que ce ne soit pas une opportunité manquée. Quand les médecins, les infirmières, les sages-femmes écoutent avec compassion, les survivants sont plus enclins à partager leur histoire. Quand ils posent les bonnes questions, ils peuvent découvrir ce qui se passe réellement et contester les attitudes culturelles telles que « c'est acceptable pour un mari de battre sa femme ». Ils peuvent rassurer les femmes sur le fait que ce n'est pas de leur faute et travailler avec elles pour les aider à rester en sécurité. Et le cas échéant, les mettre en contact avec d'autres services qui peuvent leur fournir un abri, un soutien psychologique, un service juridique et une assistance financière. Davantage de femmes peuvent aller vers une vie sans violence quand des changements sont mis en place dans l'ensemble du système de santé et dans d'autres systèmes. Des changements tels que des salles de consultation privées, des formations pour permettre aux médecins et infirmières de mieux répondre aux besoins des femmes et sensibiliser sur les conséquences néfastes de la violence sur les femmes et les enfants et comment les prévenir. Effectuer ces changements favorise une culture où la violence est inacceptable et où les femmes ont le courage de s'exprimer. imaginer que cela puisse arriver à chacune de ces 800 millions de femmes.
Pour résumer la vidéo, donc, celui de l'Organisation mondiale de la santé, donc renforcer la réponse du système de santé. En fait, les fournisseurs de soins de santé peuvent accroître la sensibilisation, apprendre davantage sur la question, écouter les femmes avec empathie, fournir des soins et un traitement, mettre les femmes en...
Good evening. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from dramas to musicals to burlesque to comedy and everything in between. I'm your host, Sarah Day, recording from home on Thursday, July 15th, 2021. On tonight's show, my guests. Quincy Armorer of Black Theatre Workshop. Their latest project revisits a creation about police violence from 2013.
Things have certainly changed, but what still is the same when we did Sal Capone, you know, I guess coming up on 8 years ago now, is how unfortunately relevant these stories are. Like, I really, really wish that I could say that we didn't need these stories anymore, but it's just being proven again and again and again and again and again.
Bruno Gagnon of Flip Fabrique brings six to the Montreal Complètement Cirque.
There's nothing like a live performance in front of an audience that is seated and that is watching you indoor. There's nothing that will be equal to that. So we're very excited.
And Ellen David at Théâtre La